Alors, donc, dans le cadre de votre journée d'études, ce qui me revient, c'est d'essayer d'exposer comment les lectures critiques de la Bible se sont imposées progressivement et non sans difficulté. Alors, du coup, le parcours que je vais vous proposer, vous m'entendez bien ? Oui. Le parcours que je vais vous proposer est d'abord historique. Il va retracer les orientations et les réorientations qu'a prise l'exégèse biblique, disons, du 19e siècle, pour ne pas remonter trop à nos jours. Mais je vais tenter aussi de vous montrer quels ont été les enjeux et quels demeurent les enjeux d'approches de la Bible qui, en fait, sont diversifiées, hein, historico-critiques, synchroniques, je vais revenir dessus, mais qui ont pour point commun de s'opposer toutes à une lecture fondamentaliste des textes. Alors, le point de départ de ce panorama qui va être un peu rapide, hein, de l'histoire des études bibliques, ça va être donc l'émergence de l'exégèse qu'on appelle historico-critique. Et puis, j'évoquerai comment celle-ci a aussi été appelée à sortir d'elle-même par d'autres approches, par d'autres disciplines, la sémiotique littéraire, la sociologie, la littérature. Je ne m'attarderai pas trop sur ce point parce que je voudrais, en fin de parcours, aborder une autre approche qui s'est imposée, disons, depuis une trentaine d'années dans les études bibliques, et une approche qui manifeste qu'une herméneutique sous-tend le processus de croissance du texte biblique. Hein, le texte biblique est un texte qui s'est composé sur une longue période, mais aussi par réécriture. On reprend des textes anciens, on les relit, on les réinterprète. Alors, les présupposés, les enjeux de cette dernière méthode me semblent importants, particulièrement pour votre réflexion, pour notre réflexion aujourd'hui. Alors, donc, le premier point que je voudrais évoquer, c'est ce qu'on appelle un peu rapidement l'exégèse historico-critique. Disons que pour situer les choses, l'exégèse scientifique moderne s'est constituée progressivement en réponse à un défi, qui a été celui de la science historique d'inspiration rationaliste, et on pourrait dire aussi en réaction à une proposition dogmatique, autoritaire, hein, qui apparaissait d'une certaine manière contraire à l'autonomie de la raison. Alors, cette exégèse scientifique a aussi été stimulée par les découvertes archéologiques, les données épigraphiques, et du coup, elle va avoir pour but de chercher à montrer l'insertion des écrits bibliques, hein, de la Bible, des textes bibliques, dans la diversité des contextes historiques, culturels et religieux du Proche-Orient ancien. Donc, vous savez peut-être qu'une grande découverte de l'archéologie, ça a été de se rendre compte qu'il y avait des textes qui racontaient un déluge et qui étaient bien antérieurs aux textes bibliques. Hein, donc il a fallu accepter se donner, bon, c'est élémentaire, enfin qui peut apparaître assez élémentaire, mais qui n'est pas toujours apparu comme tel, hein, que le texte biblique a pu être influencé par des littératures d'autres civilisations. Merci beaucoup. Depuis la fin du 19e siècle, en fait, l'exégèse biblique se trouvait en effet affrontée aux défis intellectuels représentés par la philosophie des Lumières, par la naissance des sciences humaines, par les progrès scientifiques, qui ont tous remis en cause le statut de la Bible, on pourrait dire ce statut de livre considéré comme le livre de tous les savoirs. L'exégèse se débattait alors avec la difficulté épistémologique d'articuler les résultats d'une analyse scientifique, critique, des textes bibliques et leur interprétation au sein d'une tradition ecclésiale. Tous les conflits en fait, vont se situer là. À cette époque, divers efforts furent alors entrepris pour concilier la religion chrétienne avec les conclusions de la philosophie agnostique et de la science historique d'inspiration rationaliste, ce qu'on évoque sous le nom de modernisme. L'idée, en fait, était de maintenir en contact avec le christianisme tous les secteurs de la pensée humaine. À quoi est-ce qu'on a assisté alors ? Une sorte de confrontation entre la tradition religieuse et ce qu'on a appelé la modernité. C'est-à-dire que, au fond, ce qui s'est passé, c'est que des exégètes chrétiens ont tourné un appareil d'analyse critique contre les écritures sacrées de leur propre tradition. Alors, du côté du protestantisme, je ne vais pas trop rentrer dans les détails quand même, mais du côté du protestantisme, ce phénomène a engendré deux attitudes contrastées, hein, avec d'un côté le développement d'une formation théologique universitaire et critique, et de l'autre côté, une opposition à toute relativisation du message biblique. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que globalement, l'exégèse historico-critique va marquer largement la théologie protestante universitaire de la fin du XIXe et du XXe siècle. Ça a été plus compliqué peut-être du côté de l'Église catholique. Alors, je le dis tranquillement, puisque vous avez dit que j'étais de l'Institut catholique, donc vous voyez ma position. Donc, ça a été plus compliqué du côté de l'Église catholique, parce qu'elle n'était pas vraiment prête à s'ouvrir au projet moderniste et aux questions que ce projet posait. Alors, du coup, l'Église catholique va donner un coup d'arrêt à cette exégèse historico-critique, hein, qui s'est elle-même nommée progressiste, et exégèse qui a d'abord été attachée au nom de Alfred Loisy. Alors, il y a eu, dans l'année 1907, deux actes majeurs de l'Église catholique qui ont condamné le modernisme. Bon, il y a eu d'abord un décret du Saint-Office, et puis ensuite une encyclique. Une encyclique, c'est une lettre qui est adressée aux évêques et aux fidèles, et qui est censée dire, enfin, qui est pas censée, qui expose la position officielle de l'Église catholique sur un sujet donné. Donc, c'est un acte, disons, d'autorité assez fort. Donc, en 1907, il y a deux actes donc, qui ont condamné le modernisme, un décret du Saint-Office et puis une encyclique. En 1908, après un refus explicite de soumission aux décisions qui étaient contenues dans ce décret et dans cette encyclique, eh bien, un certain nombre de professeurs furent excommués, dont Alfred Loisy. Quelques années plus tard, en 1910, un motu proprio, bon là c'est un texte qui est émis par le pape, un motu proprio a demandé aux professeurs de théologie et aux clercs une profession de foi anti-moderniste, évidemment pour être autorisé à continuer à enseigner. La même année, il y a eu encore un autre motu proprio qui leur faisait promettre de regarder les décisions du Saint-Siège comme la norme de leur enseignement et de leur publication. Donc vous voyez, il y a une position qui était assez ferme de l'Église catholique. Alors du coup, il y a des noms qui... en tout cas, sont assez connus dans les études bibliques. Marie-Joseph Lagrange, qui était un dominicain, et Albert Condamin, qui était un jésuite, qui ont été interdits de publication. Disons que pour le dire en un mot, l'intention du pape Pie X, qui était le pape de l'époque, c'était de stimuler un développement très contrôlé des études bibliques. C'était ça le problème. La confrontation avec les modernistes tournait autour des questions suivantes: la fiabilité de la Bible, l'inspiration et l'infaillibilité des textes bibliques, et puis la relation entre la critique historique et le magistère de l'Église. Malgré tout ce système doctrinal qui a été opposé au modernisme, les exégètes dits progressistes ont continué d'avancer leur position. Alors, ils ont fait semblant de se soumettre, mais ils ont continué leur travail de lecture. Et en fait, si je raccourcis un peu l'histoire, pour qu'un tournant soit véritablement pris et rendu visible, il va falloir attendre une encyclique qui s'appelle Divino Afflante Spiritu. Les encycliques portent toujours le nom de premiers mots, alors comme elles sont écrites en latin, voilà, ça donne ça. Donc une encyclique du pape Pie XII en 1943 qui va introduire dans l'Église catholique les normes d'interprétation de la Bible qui avaient été proposées en vain pendant 40 ans par l'exégèse progressiste. Alors cette encyclique va apparaître comme une véritable libération. Et puis, quelques 20 ans après, le Concile Vatican II va en quelque sorte entériner cette prise de position de l'Église et autoriser, si je peux le dire comme ça, l'exégèse critique avec la constitution Dei Verbum. Pour achever ce rapide parcours historique, je pourrais aussi signaler simplement que les questions posées par le modernisme ont traversé tout le XXe siècle et que l'exégèse critique, consentant à l'idée que l'inspiration divine des écrits bibliques n'exclut pas leur origine humaine ni leur forme plurielle, a développé une lecture historique qui répondait aux exigences de la modernité. Alors du coup, cette exégèse s'est constituée autour, pourrait-on dire, de deux objets complémentaires. Le rapport du texte biblique à l'histoire. Dans quel contexte un texte biblique est-il né? et aussi l'histoire de la composition du texte. Alors, ces textes n'ont pas été écrits d'un seul tenant, ils ont été repris, réinterprétés, relus, donc il faut regarder aussi l'histoire de leur composition. Alors, donc c'est une exégèse qui voulait s'attacher essentiellement à l'identification des moments et des circonstances historiques qui ont produit des textes bibliques, à la délimitation de leurs sources, et à la reconstitution de l'histoire de la composition littéraire de ces textes. De ce point de vue, si ça vous évoque quelque chose, la théorie documentaire appliquée au Pentateuque en est une belle illustration. Alors la question qu'on pourrait se poser, est-ce que cette exégèse moderniste, dite historico-critique, qui se voulait à la charnière entre science historique et critique littéraire, est-ce qu'elle était pour autant indemne de tout positionnement idéologique ? Toujours la question qu'on peut se poser pour mesurer la scientificité d'une approche. Ben, il serait naïf de le croire. Le monde chrétien, tant protestant que catholique, en distinguant le contenu religieux de la Bible d'hypothèses ayant trait à son origine, fut en réalité influencé par ce qu'on appelle la théologie libérale allemande du XIXe siècle, théologie qui tendait à réduire l'élément surnaturel de la religion au profit des aspects humanistes et rationnels. Et elle fut aussi influencée par le romantisme qui encourageait une fascination des origines. Donc il y avait bien des influences aussi sur cette manière d'approcher les textes bibliques. Comme l'écrit Jean-Louis Ska, pour cette raison naît le désir, je le cite, pour cette raison naît le désir de retrouver dans le passé les moments où la pensée était encore vierge et exempte de toutes les déviations postérieures. Pour cette même raison se développe une attitude négative envers les périodes plus récentes de l'histoire biblique, tout particulièrement de l'époque post-exilique. Ce qu'on appelle l'époque post-exilique, c'est l'époque qui suivit la grande domination babylonienne, dont la date, disons, qui la plus marquante est 587, quand la Babylonie a déporté une partie de la population d'Israël en Babylonie et a pris la possession du pays. La prédominance des catégories de l'histoire dans le monde universitaire germanique a marqué l'exégèse, comme la philosophie, et invité à penser le développement des cultures sur le modèle de l'évolution du monde biologique. Voilà aussi une influence. Par la suite, l'exégèse prit davantage en compte une nécessaire comparaison entre les différentes religions et cultures de l'Antiquité. Alors, dans les limites du temps qui m'est imparti, je ne vais pas développer cet aspect-là parce qu'on n'aurait pas le temps. Mais je voudrais juste souligner qu'il n'est pas possible de retracer, qu'il convient de signaler plutôt dans le monde universitaire actuel la reconnaissance de ce qu'on pourrait appeler l'interaction entre exégèse critique et l'ère du temps. C'est-à-dire que notre rapport au texte est quand même marqué par l'ère du temps. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que beaucoup d'exégètes s'intéressent justement à ce qu'on appelle la crise de l'exil, donc la domination babylonienne, cette période où tout est perdu en Israël, parce que la Babylonie entre dans le pays, prend possession de la terre, détruit le temple, il n'y a plus de roi, enfin toutes les promesses de Dieu, promesses racontées selon la Bible, sont anéanties par la domination babylonienne. Pourquoi est-ce qu'on s'interroge aujourd'hui dans le monde occidental à cette époque-là? Probablement aussi parce que nous traversons une crise. Donc c'est important aussi de mesurer comment nos approches sont marquées par la position qui est la nôtre. Donc cette irrésistible montée de l'exégèse historico-critique, et là je passe à mon deuxième point, va connaître elle-même un temps d'arrêt, plus ou moins dans les années 70. Pourquoi ? Parce qu'elle a été, elle aussi, appelée à sortir d'elle-même, et comme je l'évoquais en introduction, par d'autres disciplines, par d'autres sciences du texte, la sémiotique littéraire, la sociologie, la littérature, etc. De sorte qu'il va y avoir une résistance à séparer pôle de l'écriture et pôle de la lecture. Pourquoi ? Parce que l'interprétation d'un texte biblique est toujours effectuée, et je viens de le rappeler, par un lecteur qui appartient à une tradition déterminée. En outre, le texte biblique doit être considéré dans le cadre d'un processus de communication qui le livre à ses lecteurs. Comme le souligne Daniel Marguera, qui est un exégète protestant, un des acquis des approches synchroniques des textes bibliques fut la reconnaissance du caractère situé et subjectif de la quête exégétique. À quoi il convient d'ajouter, et je le cite, « Le texte, cependant, résiste à toute lecture, et le caractère fini du texte, cette résistance matérielle qu'il oppose à qui veut le capter dans son filet herméneutique, permettent d'objectiver, au moins partiellement, la démarche d'analyse. » Pour le dire autrement, la signification que la lecture du texte est, doit être, autant que le, pardon, la signification que la lecture dégage du texte est, et doit être, autant le résultat de la résistance de l'œuvre que de l'horizon d'attente du lecteur, l'un n'avalant pas l'autre. Fin de citation. Donc le principe, si vous voulez, d'immanence qui fonde les lectures synchroniques est le suivant. Tout dans le texte est signifiant, et le sens se construit comme un réseau qui relie tous les éléments textuels. Et les approches synchroniques reconnaissent aussi que le texte biblique assigne à ses récepteurs, à ses lecteurs, des positions diverses, et que donc la lecture doit respecter les conventions que le texte lui-même fournit au lecteur. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le texte. Il faut le regarder attentivement et se laisser guider par le texte. Alors, dernier passage dans l'exégèse biblique que je voudrais évoquer avec vous, parce qu'elle me semble importante pour aujourd'hui, c'est ce passage que l'on a vu apparaître depuis une trentaine d'années, un nouveau modèle exégétique critique qui s'est développé et qui manifeste donc qu'une herméneutique sous-tend le processus de croissance du texte biblique. Alors, cette approche, elle s'intéresse en fait à la façon dont une partie importante de la Bible s'est construite sur la réception et la révision de textes antérieurs. Le texte biblique, si vous voulez, c'est un texte qui a grossi au fur et à mesure des siècles. Et c'est une méthode exégétique qui se développe au sein des méthodes dites historico-critiques. Alors, c'est une méthode qui a d'abord connu un essor au sein de la tradition intellectuelle du judaïsme. Et puis ensuite, elle est arrivée dans le monde chrétien. Définir que la Bible s'est formée par écritures successives, dans une dynamique qui est à la fois conservatrice et innovatrice, c'est dans le même temps énoncer que l'exégèse, avant de porter de l'extérieur sur le texte biblique, comme on le fait aujourd'hui, c'est en fait exercé à l'intérieur du texte biblique. Vous voyez ce que je veux dire ? On voit dans le texte biblique lui-même des traces d'interprétation de texte. On voit que les textes bibliques eux-mêmes font œuvre d'exégèse ou d'interprétation. L'interprétation d'une tradition reçue comme autoritaire ne commence donc pas avec la clôture du canon. Et ce qu'on appelle canon, pour la communauté juive ou pour les communautés chrétiennes, c'est l'ensemble des textes qui est reconnu comme faisant autorité pour la foi d'une communauté. Ce qui fait qu'il faut distinguer le canon juif, le canon protestant, le canon catholique, le canon orthodoxe, etc. Chaque communauté définit quels sont les textes qui sont normatifs pour sa foi, si vous voulez. Et tous ces canons n'ont pas la même extension. Donc l'interprétation est au contraire déjà à l'œuvre dans la formation de ce canon. En ce sens, le contenu qui est transmis par la tradition et le processus de transmission lui-même entretiennent dans la littérature biblique un rapport complexe. Alors c'est une observation qui conduit à prendre au sérieux le fait que la constitution de la Bible, du corpus scripturaire, par écriture successive, est le lieu d'émergence de l'esprit critique. Alors c'est ce que souligne un exégète juif qui s'appelle Bernard Levinson, un juif américain. Je le cite, « La pensée critique n'est pas en contradiction avec le canon, mais elle est centrale au canon et promue par lui. Correctement compris, le canon est radicalement ouvert, il donne forme à la critique et incorpore une pensée théorique. » C'est très important, parce que quand on pense canon, c'est-à-dire ensemble de textes normatifs, on a tendance à penser, en tout cas au milieu catholique, quelque chose de figé. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez un ensemble de textes qui sont normatifs. La Bible, pour nous, c'est ça. Mais ce que Levinson explique, c'est que, en fait, le canon s'est formé de manière progressive, et le canon est passé par plusieurs étapes au cours de laquelle on voit à l'œuvre l'esprit critique. Et c'est le canon, cette constitution progressive du canon, qui en fait permet l'émergence de l'esprit critique. C'est très important parce que ça nous dit que la Bible témoigne qu'une tradition religieuse peut être en fait un sanctuaire de l'esprit critique. Alors si, avant d'atteindre sa forme définitive, le canon passe par plusieurs phases dans sa constitution, hein, chaque étape intermédiaire constituant en quelque sorte un canon dans le canon, hein, une étape du canon, la question c'est évidemment de savoir comment un texte arrêté, hein, comment un texte qui fait autorité, peut satisfaire les besoins changeants de génération. Vous voyez la question, comment est-ce qu'on peut à la fois reconnaître qu'un texte a une autorité et en même temps vouloir l'adapter pour de nouvelles générations dans des situations historiques différentes. Comment est-ce qu'il est possible à la fois de se soumettre à l'autorité du canon et de l'adapter à une nouvelle situation? Je cite de nouveau Levinson. Si le canon littéraire clos, comme dépôt de révélation ou de compréhension, constitue la source de stabilité d'une tradition religieuse, l'exégèse est ce qui lui apporte la vitalité. Par exégèse ou herméneutique, j'entends ici la série des stratégies interprétatives qui visent à élargir l'application du canon au tout de la vie et même aux circonstances non envisagées originellement par le canon lui-même. Par le biais de l'exégèse, le canon, limité textuellement, devient illimité dans son application. L'un des premiers moyens par lequel une tradition religieuse démontre sa créativité est en effet la variété des moyens qu'elle utilise pour s'adapter à un canon qui fait autorité, tout en adaptant ce canon textuellement clos. Ça veut dire qu'il y a une créativité de l'exégèse, hein, qui est à l'œuvre à l'intérieur des textes bibliques, et qui se joue un peu de cette interaction entre contrainte canonique et ingéniosité exégétique. Les stratégies et les techniques qui ont été utilisées par les scribes de la Bible, hein, pour actualiser les textes reçus dans des contextes nouveaux sont multiples. Alors, ce serait trop long de les montrer toutes, mais peut-être pour prendre la mesure de la complexité, de la subtilité du phénomène, en particulier lorsqu'il s'agit de préserver l'autorité de loi qui revendique une origine divine, puisque c'est bien de cela dont il s'agit aussi dans la Bible. Pensez par exemple au texte du Décalogue, hein, dont on nous dit que c'est Dieu qui les a donnés, hein, directement. Alors, pour prendre la mesure de ce phénomène, un exemple est fourni par Levinson, que je voudrais vous proposer pour vous aider à entrer dans ce que j'essaie de vous expliquer. C'est un exemple qui concerne la loi sur l'autel. Dans le livre de l'Exode, qui est un livre biblique, il y a le commandement de la pratique suivante. Tu me feras un autel de terre, donc là je cite le texte biblique, tu me feras un autel de terre et tu y sacrifieras tes holocaustes et tes sacrifices de paix, ton petit et ton gros bétail, en tout lieu où je ferai rappeler ton nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Donc si on lit le texte, ou si vous l'entendez comme ça, l'Exode autorise la multiplicité lieux pour honorer Dieu. Hein, en tout lieu où je ferai rappeler ton nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Dans un autre livre qui s'appelle le Deutéronome, on a au contraire une loi qui commande que le culte soit centralisé en un seul lieu. Donc évidemment, on a là deux lois contradictoires. Je lis le texte du Deutéronome. Garde-toi bien d'offrir des holocaustes en tout lieu que tu verras. C'est seulement dans le lieu choisi par Dieu chez l'une de tes tribus que tu offriras des holocaustes. Un problème, comment concilier ces deux lois à l'intérieur du texte biblique qui sont contradictoires? En fait, les auteurs du Deutéronome, qui est un livre plus tardif que l'Exode, au moins ce passage-là, parce qu'il faut pas rentrer dans les détails, c'est compliqué, il faut prendre tous les morceaux pour être sûr. Mais disons que ce passage-là du Deutéronome est postérieur à l'Exode. Qu'est-ce qu'ont fait les scribes du Deutéronome? Ils ont profité d'une expression qui, en hébreu, est assez ambiguë, hein, puisque le texte de l'Exode dit « Bekol amakom », si je traduis littéralement en français « en tout le lieu » ou « dans tout le lieu ». Vous voyez, ça c'est bizarre, « en tout lieu » ou « dans le lieu ». Hein, mais la syntaxe est pas bonne en hébreu, donc ils ont profité de cette syntaxe qui est ambiguë, hein, pour reprendre le texte, hein, et l'infléchir dans le sens de l'idée d'une centralisation du lieu. Puisque, au fond, le texte de l'Exode, on pouvait l'entendre dans un sens distributif, hein, en tout lieu, ou bien dans un sens singulier, dans le lieu. Bon. Donc voilà, il profite de cette indétermination du texte pour l'infléchir. Et évidemment, comme le texte de l'Exode, il dit, ben, ça c'est Moïse, hein, qui le dit, donc ça a une autorité. Ainsi, et je cite dans Jean-Pierre Sonnet, qui est un exégète catholique, ainsi, pour rendre raison des changements légaux dans le droit révélé, les auteurs bibliques ont développé des stratégies et des techniques rédactionnelles spécifiques, leur permettant d'introduire des points nouveaux au sein de la révélation et comme révélation. Ils ont bel et bien ajouté, et parfois omis, mais en déjouant la loi du canon, en tirant jusque la couverture du texte canonique, inscrivant le nouveau dans l'ancien, ils ont pratiqué une herméneutique de l'innovation. Hein, donc, les scribes bibliques prétendaient garder le texte qui faisait autorité, mais en réalité, hein, quelquefois, ils l'ont infléchi. Alors, cette exégèse qui s'exerce à l'intérieur des textes bibliques, elle est pour nous, évidemment, une invitation, hein, à poursuivre le travail et à continuer à interpréter de manière active les textes bibliques. En conclusion, l'exégèse critique a été et reste une exigence provoquée par le texte biblique lui-même, hein, par les difficultés textuelles, par les difficultés littéraires, par les difficultés historiques, anthropologiques, théologiques, pour allonger la liste. Hein, pour le dire simplement, le texte biblique oblige à une lecture critique. Alors le travail de la raison qu'il appelle peut certainement s'accomplir en dehors de toute dimension confessante. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des personnes qui lisent la Bible en dehors de toute dimension confessante. Mais il ne faut pas oublier que la lecture critique de la Bible a d'abord été pratiquée, et le demeure pour une part aujourd'hui, par des praticiens qui sont au service d'une intelligence croyante de l'Écriture. L'exégèse critique n'est pas forcément non confessante. Une lecture croyante de la Bible qui ne reconnaîtrait pas l'importance de la connaissance rationnelle et d'une approche méthodique des textes, n'échapperait ni au fidéisme, ni au fondamentalisme. Inversement, on pourrait dire qu'une lecture non confessante de la Bible ne peut pas non plus ignorer que la Bible est un livre qui s'est élaboré au sein de communautés de foi, hein, juives, puis chrétiennes, et que c'est un livre qui a été transmis par ces mêmes communautés qui n'ont jamais cessé de le lire, de l'interpréter et d'en faire la source de leur action et de leur espérance. Je vous remercie.